coqs chantent le jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, nous allons vous parler de drainage agricole. Dans les faits, nous allons traiter ce sujet important en deux parties. Un premier épisode cette semaine et une deuxième partie la semaine prochaine. Et nous avons trouvé la bonne adresse pour rencontrer les femmes et les hommes qu'il faut. Le colloque organisé le 12 octobre dernier à Paris par les chambres d'agriculture, la FEID et l'ANDA Draineur de France. Il est impératif d'abord de dire qui invite. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de France, ou APCA, créée en 1924, les chambres d'agriculture sont l'interlocuteur privilégié des instances publiques afin de représenter l'ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier. Le réseau des chambres d'agriculture assure un maillage de 111 établissements publics locaux, régionaux et nationaux et en outre-mer. Au sommet de ce réseau, il y a l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui est l'interlocuteur du réseau consulaire auprès des pouvoirs publics français et européens, des instances internationales ainsi que des partenaires publics ou privés. Elle exerce une mission d'animation, d'appui et de conseil auprès des chambres dans leur domaine d'intervention. La FEID, c'est l'Association française pour l'eau, l'irrigation et le drainage, une association à but non lucratif créée en 1952. La FEID regroupe l'expertise française sur les questions d'eau pour l'alimentation et le développement des territoires ruraux. Ses membres sont des experts adhérents à titre individuel et des organisations, c'est-à-dire professions agricoles, sociétés d'aménagement régional, organismes de recherche, agences de l'eau, bureaux d'études, associations, fondations. En somme, gérer l'eau pour une agriculture durable. L'ANDA Draineur de France, c'est l'Association nationale de drainage et d'hydraulique agricole responsable. Cette association a pour mission de promouvoir un drainage agricole responsable, respectueux de l'environnement. À présent, le drainage agricole. Le drainage existe depuis la préhistoire et on en trouve des traces anciennes sur tous les continents. Il a généralement contribué à de nettes améliorations de la productivité. Ce qu'on appelle le drainage agricole est un ensemble de travaux d'aménagement hydro-agricole effectués à l'échelle de la parcelle pour supprimer les excès d'eau par drainage, pour l'assainissement spécifique à une terre agricole, voire l'assainissement agricole. Le drainage a été intensivement pratiqué dans presque tous les bassins hydrographiques d'Europe de l'Ouest, dans certaines zones d'Asie puis d'Amérique du Nord, non sans impact hydrologique et écologique. Pour comprendre l'affaire et ses différents enjeux, nous avons interrogé Luc Servan, membre du bureau de l'APCA, président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime.
L'eau et l'agriculture, hein, c'est une grande histoire. Il en faut pas trop, mais il en faut suffisamment. Et donc là, on parle plutôt de l'excès d'eau avec une évolution du climat qui est là, des fortes pluies qui sont de plus en plus fréquentes. Il faut voir comment extraire ce surplus d'eau dans les parcelles. Le drainage est la technique qui le permet. Et quand on a moins d'eau dans la parcelle, on voit aussi qu'on a un meilleur enracinement, un meilleur développement des cultures, d'où l'intérêt du drainage pour la production agricole.
C'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, la plante envoie ses racines chercher l'eau en profondeur. Et quand il y a beaucoup d'eau, les racines restent en surface. Et maintenant, quand il y a un coup de chaud, ça ne va pas. Ou bien je résume mal.
Qui est mis clairement en évidence, hein, de l'intérêt du drainage, c'est que effectivement, quand on rabaisse la lame d'eau, hein, qui est dans le sol de 1 mètre, ça permet à la plante de s'enraciner justement de manière beaucoup plus profonde, puisqu'il n'y a pas l'eau qui est là pour gêner le développement des racines, et qu'ensuite, quand vient une période plus sèche, puisque les racines vont beaucoup plus bas dans le sol, elles peuvent capter beaucoup plus d'eau, d'éléments minéraux sur cette profondeur quand même plus grande, et ça permet par la suite à la plante de bien mieux résister à la sécheresse.
notre regard va quitter la surface du sol pour descendre dans la terre avec la racine de la plante cultivée. Il faut que la racine puisse puiser de nutriments et de l'eau au bénéfice de la plante. Mais lorsqu'il y a trop d'eau, cela veut dire absence d'air dans le sol et il faut évacuer cet excédent d'eau qui étouffe les racines.
Donc en fait, on s'aperçoit qu'en éliminant l'excès d'eau, ça permet à la plante justement derrière de capter plus d'eau dans le sol. C'est peut-être un peu le paradoxe, mais c'est le fonctionnement de la plante et puis la mise à disposition quand même d'une part de sol beaucoup plus importante pour le développement des racines. Alors on s'aperçoit aussi que justement un sol drainé est beaucoup plus facile à travailler. On le travaille quand on veut, de manière beaucoup plus facile en tout cas. On le travaille à une profondeur aussi plus importante. Et dans les enjeux aujourd'hui qui sont là, justement du captage du carbone dans les sols et du stockage du carbone dans les sols, si on peut permettre aux racines d'aller plus bas dans le sol ou permettre un fonctionnement de la plante dans un sol beaucoup plus important, ça permet justement de mieux capter du carbone et d'avoir un sol plus vivant sur une plus grande profondeur.
Donc, c'est quoi un sol vivant ?
Un sol vivant, c'est un sol qui a une vie biologique, une vie microbiologique importante. Ça, c'est permis parce que l'oxygène peut aussi descendre dans le sol. Et donc, quand on rabaisse le niveau d'eau dans le sol, ça permet à l'air de mieux circuler. Et donc, ça permet aux micro-organismes de se développer, qui ensuite vont permettre à l'enracinement de se faire et à une alimentation de la plante de se faire de manière beaucoup plus importante. Donc, il y a vraiment tout un ensemble, tout un équilibre qui peut être retrouvé par le drainage.
Mais pour faire ce genre d'installation, il faut des investissements.
Alors c'est sûrement aussi un des freins au développement du drainage parce que ça a un coût. Il y a une trentaine d'années, c'était accompagné financièrement par l'État ou par les collectivités qui voulaient aider au développement de l'agriculture. Aujourd'hui, le drainage est tout à la charge de l'agriculture et donc ça a un coût et chaque agriculteur doit voir l'intérêt qu'il peut avoir. Dans certains sols, l'investissement est récupéré très rapidement. On a vu des exemples qu'au bout de 3 ans, 4 ans, l'agriculteur avait pu payer son investissement.
Parce qu'il avait amélioré son rendement.
Parce qu'il avait fortement amélioré son rendement, effectivement, par rapport au coût de l'investissement. Dans d'autres types de sols, après, il peut y avoir d'autres contraintes, mais où l'investissement n'est peut-être beaucoup moins rentable. Et donc, l'agriculteur se pose la question de le faire pour un excès d'eau qui va arriver qu'une fois tous les 5 ans ou 10 ans. Mais avec l'évolution du climat, peut-être que justement, on est en train de revoir un peu ces équilibres et que certains agriculteurs auront plus intérêt à le faire maintenant qu'auparavant.
Merci. La pratique, comment on fait ce drainage agricole? Nous avons posé la question à Bernard Vincent, spécialiste de l'IRSTEA. L'IRSTEA qui est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture.
Dans un contexte plus africain ou plus national, dans des milieux arides ou semi-arides, le drainage sert à contrôler non pas l'excès d'eau, mais l'excès de sel. Et quand les sels s'accumulent dans le sol, à la fin, finalement, le sol devient stérile. Et vous pouvez mettre toute eau d'irrigation que vous voulez dessus, il ne se passera plus rien. Et c'est pour nous un grand sujet de préoccupation, parce que ce qui se passe dans les milieux arides, on irrigue, on fait de la micro-irrigation, mais on oublie d'enlever les sels du sol.
Alors, comment on fait du drainage? Pratiquement, comment ça se fait? Il faut d'abord qu'il pleuve.
Alors, ça dépend où on le fait, dans quel milieu. Alors,
vous... Ah, donc il faut d'abord que j'étudie mon champ, ma parcelle.
Il y a déjà ça. Et pour répondre à votre question, j'ai besoin, si vous voulez avoir une réponse en France, en Hollande ou au Maghreb, par exemple. Je vous réponds où?
Ah ben, vous allez où vous voulez, moi je vous suis. Commençons d'abord par la France.
Donc, on va faire ça en France. Donc, alors, le drainage agricole, vous l'avez compris, c'est principalement pour contrôler de l'eau au printemps. Alors, donc, ça sert quelque chose comme 3 semaines par an.
À 3 semaines par an.
Ouais, grosso modo. Je caricature à peine, mais c'est moins de 2 mois, quoi. Mais c'est simplement parce que l'eau en excès, elle est présente à des moments critiques, parce que le sol est trempé, et l'agriculteur, avec son tracteur, il s'embourbe.
Ah, c'est-à-dire que quand il pleut, il y a un moment où la terre ne peut plus absorber l'eau, il y en a trop.
Elle accepte même plus vos bottes, vos bottes restent dans le champ et vous vous retrouvez pieds nus. Donc il y a le drainage agricole, il sert simplement à faire en sorte que l'eau en excès, et cette eau en excès dans le sol pour l'agriculture, elle est nuisible parce qu'elle est en concurrence avec l'air, et les racines elles respirent. Donc elles ont besoin d'oxygène. Et c'est aussi une possibilité pour les tracteurs de rentrer dans le champ parce que le sol n'est pas portant.
Pourtant, ça veut dire que si...
Ils s'enfoncent. C'est quand vous avez vu les trucs de sable avec le tsunami, malheureusement. Bah, c'est à peu près le même procédé. Le sol devient fluent, liquide, et il ne porte plus le tracteur. Ils sont morts.
Donc, plusieurs inconvénients, c'est-à-dire que le sol n'est plus portant, ça c'est un... Et au niveau des racines, vous avez dit que l'air n'entre plus, alors que la plante a besoin d'air et d'eau.
Donc voilà, donc effectivement, le fait de gérer cet excès d'eau, si on veut arriver à avoir une production agricole, et puis si on veut aussi protéger l'environnement et protéger le sol, on est amené en France, dans cet territoire engorgé, à poser des tuyaux enterrés.
Ah, c'est-à-dire que quand je vois la plantation, là, en fait, sous mes pieds, il y a un tuyau.
Un tuyau perforé qui est posé avec une machine que vous avez peut-être pu voir sur la vidéo. Donc, c'est des machines qui font une trentaine de tonnes, qui ont 600 à 800 chevaux de puissance et qui soit anime une chaîne qui, comme une tronçonneuse, mais verticalement dans le sol, creuse une tranchée et pose le tuyau au fur et à mesure qu'elle avance, et soit une machine qu'on appelle une sous-soleuse, et là c'est tout en puissance, c'est un soc fait de 2 mètres de haut et qui fend le sol, et le tuyau il passe dans le derrière la machine au fur et à mesure qu'elle avance également. Donc c'est un système extrêmement productif. Si le chantier est bien organisé, une draineuse sous-soleuse peut poser 18 hectares par jour, on court derrière.
Et c'est le monstre mécanique qu'on voit là.
Ça c'est gros, oui. Mais c'est une très faible portance, que c'est conçu, sur des grands trains de chenilles, ça abîme pas le sol. C'est une motricité extraordinaire et c'est fait pour fendre le sol et poser des tuyaux. Tout ça depuis 30 ans. Tout ça c'est guidé par un faisceau de référence défini par du laser. Et on le fait depuis 10 ans seulement en travaux publics. Et ce plan de référence permet de poser le tuyau à une profondeur requise, réglée au centimètre près, en le posant sans aucune contrepente, conformément à ce qu'a défini le projeteur. C'est une précision excellente.
C'est-à-dire que je suis la pente.
On suit une pente pour que ça fonctionne en gravitaire. Pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait de contrepente. Et donc, on fait une pente régulière. Et donc, ce qui fait que c'est pour ça que le système est durable, parce que l'eau s'écoule régulièrement, il n'y a pas sédimentation, etc.
Ce tuyau va d'où à où ?
Le tuyau, on le met en bout de parcelle et donc ils sont posés parallèlement à un écartement qui est défini entre les besoins agriculteurs, entre le sol, etc. Donc j'ai expliqué qu'en France, on utilisait un modèle de régime variable qui correspond bien au fonctionnement des nappes temporaires que l'on a. C'est pour ça que l'on fait ça. Ça se fond dans le sol, l'eau, c'est l'eau de pluie, elle rentre sur le sol, vroom, elle s'infiltre. Et elle va jusqu'au tuyau du tuyau. Donc le tuyau, il a la fonction de recevoir l'eau et puis aussi de la conduire en dehors du sol.
Vers le ruisseau.
Alors vers un collecteur, lui-même vers un autre collecteur, c'est une grande parcelle, donc collecteur enterré, et après vers un exutoire qui peut être soit un fossé, soit un cours d'eau.
Ce que nous venons de voir, c'est en France, pays où il pleut. Maintenant, vous avez cité plusieurs cas. Allons dans le Sahel africain, pays aride.
Alors, je ne connais pas bien le Sahel, je connais un peu mieux le Maghreb.
Donc, allons au Maghreb.
Donc, allons voir au Maghreb. Et là, la problématique est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a affaire à une agriculture irriguée. Donc, on apporte de l'eau. Et de l'eau, elle provient des cours d'eau ou elle provient des nappes. Mais quoi qu'il en soit, et soyez curieux, regardez une bouteille d'eau minérale, regardez la concentration de sel qu'il y a dedans, les sols totaux, vous arrivez à plusieurs centaines de milligrammes. Une eau considérée de bonne qualité pour l'irrigation, c'est une eau à 1 gramme par litre. Et quand vous irriguez, et par contre certaines nappes dans le Maghreb, elles sont déjà à 10-12 grammes par litre, c'est une eau quasiment saumâtre, on irrigue avec ça. Et à 6 grammes par litre, une eau est considérée comme impropre pour l'agriculture.
C'est pas bon pour la plante.
Ah ben, c'est pas bon du tout. C'est incompatible, c'est la stérilisation.
Et on irrigue justement avec cette eau-là.
Alors, on irrigue avec cette eau-là. Donc, 6 grammes par litre, c'est possible. 1 gramme par litre, c'est bien, mais rien qu'un gramme par litre. Quand on irrigue 100 mm, on ajoute 10 tonnes à l'hectare de sel la première année. La deuxième année, c'est 10, la troisième, la dixième année, voilà, ça fait 100 tonnes.
Et ça s'accumule.
Et ça s'accumule. Ça s'accumule si on ne draine pas.
Ah oui, donc pour éliminer ce sel, on est obligé d'installer un système de drainage.
Alors, on est obligé de gérer les sels en faisant du drainage. Après, selon les conditions hydrologiques, soit on met des tuyaux, soit on fait en sorte que ça fiche le camp vers la profondeur.
Le comment ?
Eh bien, pour cela, c'est une question de gestion d'irrigation. Donc, dans la conception d'irrigation, on conçoit le système de façon à ce qu'il apporte une dose supplémentaire d'irrigation qui n'est pas pour la plante, mais pour le sol, pour lessiver le sol.
Ah, c'est-à-dire que d'abord, je fais une irrigation pour ma plante qui en a besoin. Puis, il y a un surplus que je viens faire pour pouvoir nettoyer. Enfin, bon, je sais pas.
C'est exactement ça, pour nettoyer. C'est ce qu'on appelle la dose de lessivage. Et tous ceux ou celles qui ont eu des plantes en pot connaissent, dans leur appartement, connaissent le problème. Quand vous arrosez votre plante, au bout d'un moment donné, vous voyez un petit peu d'un machin cendreux qui apparaît à la surface de la terre. Bah, c'est du sel qui remonte par ascendum. Et donc, vous arrosez, bah, vous faites la même chose chez vous avec votre pot. Vous lessivez le sol vers le fond du pot et vous récupérez de l'eau salée. Alors, l'eau, vous en foutez. Mais dans les pays arides, cette eau-là, on s'en fout pas parce qu'on souhaite la récupérer parce que l'eau est une ressource.
Rare en plus.
Elle est rare. Alors, elle est tellement rare que les gouvernements qui font des programmes d'investissement agricole promeuvent l'irrigation. Ils promeuvent une irrigation de précision en micro-gouttes. Ils vont même jusqu'à promouvoir une irrigation déficitaire parce que les agronomes déficitaires, c'est-à-dire qu'on amène moins d'eau que les besoins de la plante. Et il y a des plantes comme ça. Ben, typiquement la vigne. Alors, la vigne en France, ben, elle aime bien être un peu stressée.
Quand il y a beaucoup d'eau, elle n'aime pas.
Elle n'aime pas trop, mais elle fait la meilleure qualité, surtout quand elle est stressée hydriquement. Mais c'est pareil pour d'autres plantes. Et il y a des gouvernements qui disent faisons la micro-irrigation et apportons le strict minimum. Donc ce qui est déjà faire une grande confiance aux agriculteurs de savoir utiliser la technologie moderne, ce qui n'est pas gagné. Et puis surtout de base et pas construction, les bailleurs de fonds internationaux, dont la France, financent des systèmes qui ne sont pas durables parce que si on ne prend pas en compte la dose de lessivage, on va dans le mur. On en est là. Et ça fait partie, donc là, effectivement, mon côté la faillite, donc côté, je dirais, climat, on est sur la qualité de l'eau. On propose des solutions et on promeut le drainage comme système de gestion de l'eau. On a du mal, vous allez vous rendre compte si vous suivez la totalité du colloque. Dans les pays arides, c'est la durabilité du système parce qu'on dit, mais non, on apporte juste l'eau qu'il faut pour la plante. Alors, on préserve pas la ressource, parce que l'eau qui est sauvée, elle sert pas du tout, elle est pas préservée, on s'en sert seulement pour irriguer un peu plus de terre. Donc on économise pas d'eau du tout avec ces systèmes-là, alors que le but premier c'est économiser l'eau. Et on met en péril le sol, parce qu'un sol salé, qui s'est salinisé...
C'est ce que vous appelez alcalin.
Vous êtes bien au courant. Non, là je suis encore dans la sodicité, c'est-à-dire c'est un moment où ça reste encore...
C'est encore gérable.
Où c'est encore gérable. Une fois que c'est alcalin, c'est beaucoup plus compliqué. Mais alors pour gérer là, il faut de l'acide sulfurique. Donc on n'est plus du tout dans les techniques agronomiques. Mais
en tout cas, c'est alcalin, là c'est vraiment compliqué.
C'est extrêmement compliqué. Mais ça, les agriculteurs, ils connaissent parfaitement ce risque, alors que nous, on le connaît beaucoup moins. Mais je vois quand même que vous êtes un petit peu, que vous êtes un petit peu au courant. Donc l'alcalinisation, c'est ce qui risque d'arriver dans le Maghreb, par exemple, si on prélève toujours dans la nappe et qu'on recycle les mêmes sels, c'est là, effectivement, on va attaquer le complexe argilo-humique et là, on va aller un peu plus loin. Mais les Pakistanais en sont là, hein, et c'est dramatique.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Ainsi se termine cette première partie consacrée au drainage agricole. La semaine prochaine, suite et fin sur le thème « Drainage agricole et changement climatique ». Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coqchante. Avant de se quitter, toujours cette bonne nouvelle, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais très simple. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.